Voici la ballade du vieux marin telle que l'a écrite Samuel Taylor Coleridge, traduite par Patrick Calais, éditée aux éditions Publi.net, lue par Bernard Régnier, musique additionnelle de Bernard Benoît, édition Bretagne, musique de nos régions 2013. C'est l'histoire étrange d'un navire, d'un équipage et d'un marin qui s'est passé dans les mers froides du Sud et chaudes du Pacifique. Une histoire que chacun entendra à sa façon et qui commence sur un chemin où trois jeunes gens s'en vont à la noce. C'est un très vieux marin. Il arrête un des trois. « Par ta longue barbe grise et par ton œil brillant, pourquoi donc m'arrêter ? Les portes du marié nous sont grandes ouvertes et je suis de ses proches. Les invités sont là, le banquet est fin prêt. Entends ce brouhaha. » De sa main décharnée, il le retient, il dit « Il était un navire. »« Bah les pattes, vieux fou !» Le vieil homme aussitôt laisse tomber sa main. Mais de son œil brillant, il le retient encore. L'autre ne bouge plus. Sidéré, il écoute comme un petit enfant, le marin le tient ferme. Bien forcé d'écouter, l'invité à la noce s'est assis sur une pierre, et le vieux continue, marin à l'œil brillant. Salué de la terre, déjà sorti du port, nous voguions tous gaiement, doublant d'abord l'église, puis bientôt la falaise, et enfin le fanal. Le soleil se leva, il sortait de la mer, c'était à notre gauche. Il brilla, éclatant, et plongea dans la mer, c'était à notre droite. Ainsi, toujours plus haut, le soleil à midi, de jour en jour plus haut, jusqu'à l'aplomb du mât. Là, au son du basson qui marque la mesure, l'invité à la noce se frappe la poitrine. Dans la salle d'honneur, la mariée est entrée, rouge comme une rose. Elle suit lentement les joyeux musiciens qui balancent la tête. L'invité à la noce se frappe la poitrine, il ne peut qu'écouter. Et le vieux continue, marin à l'œil brillant. Alors une tempête arriva en rafale, tyrannique, terrible, et elle nous frappait de ses ailes immenses, nous chassant vers le sud. Comme celui qu'on poursuit, en hurlant, en frappant, qui court et foule encore l'ombre d'un ennemi et toujours lui tient tête, le navire filait dans le mugissement de la tempête, avec ses mâts qui s'inclinaient et sa proue qui plongeait, fuyant droit, droit au sud. Alors, tout à la fois le brouillard et la neige, et un froid étonnant. D'énormes blocs de glace, aussi hauts que nos mâts, flottaient tout alentour, verts comme l'émeraude. Oh, lumière lugubre des falaises de neige à travers les rafales. Pas même une ombre d'homme, et pas non plus de bête. De tous côtés, la glace. La glace était ici, la glace était là-bas, la glace était partout. Ça craquait, ça grondait, mugissait et hurlait à nos oreilles comme quand on s'évanouit. Surgissant du brouillard, un albatros parut. Et comme si c'était une âme de chrétien, on le salua tous au nom du Seigneur Dieu. Il mangeait volontiers des mets nouveaux pour lui, tournant, il volait près de nous. Dans un coup de tonnerre, la glace se rompit, l'homme de bar alors nous fraya le passage et un bon vent de sud souffla derrière nous. L'albatros nous suivait. À l'appel des marins pour manger, pour jouer, tous les jours il venait. Dans brume ou bien nuage, sur mât ou sur auban, 9 soirs il se percha. Même la nuit, parfois, un rayon blanc de lune trouait le blanc brouillard. Vieux marin, Dieu te garde des démons qui te hantent. Pourquoi si triste mine ? Avec mon arbalète, j'ai tué l'albatros. Le soleil se levait, alors, à notre droite. Il sortait de la mer, mais restait dans la brume cachée, et c'est à gauche qu'il sombrait dans la mer. Et le bon vent du sud soufflait encore derrière. Mais hélas, plus d'oiseaux ne venaient aucun jour pour manger, pour jouer à l'appel des marins. J'avais fait, disait-il, quelque chose d'infernal, qui porterait malheur. J'avais tué l'oiseau par qui soufflait la brise. Malheureux, disait-il, abattre cet oiseau par qui soufflait la brise. Et ni terne et ni rouge, comme la face de Dieu, le soleil se leva, et tous de déclarer que j'avais abattu l'oiseau porteur de brume. C'était bien, disait-il, de tuer ces oiseaux qui apportent la brume. La brise était bien douce, belle l'écume blanche, bouillonnant le sillage. Nous étions les premiers à jamais surgir là, dans la mer silencieuse. Mais la brise fléchit, et fléchirent les voiles. Une inconnue tristesse se répandit sur tout. On ne parlait alors que pour briser un peu le silence de la mer. Sous un dôme de feu, tout brûlant, tout cuivré, le soleil rouge sang se tenait à midi, juste au-dessus du mât, pas plus gros que la lune. Les jours passaient, passaient, sans aucun changement, ni dans l'air, ni dans l'eau. Nous étions là, figés comme un navire qu'on voit sur un tableau. De l'eau partout. Mais les pièces de bois à bord se contractaient. De l'eau partout. Mais nulle goutte à boire. Oh, Seigneur, le fond même de la mer pourrissait. Mais comment se peut-il? Oui, des choses visqueuses, avec des jambes même, glissaient, rampaient, grouillaient sur la visqueuse mer. Et partout alentour, la nuit, tourbillonnaient les feux fous de la mort. L'eau même flambait comme des onguents de sorcière, en vert, en bleu, en blanc. En rêve, quelques-uns apprirent que c'était l'esprit qui harcelait. Il nous avait suivis à 9 brasses de fond depuis le froid pays de brouillard et de neige. Par sécheresse extrême, nos langues racornies jusque à la racine, on ne pouvait parler, comme si on s'étouffe en mangeant de la suie. Ah oui, pauvre de moi, que de regards mauvais des jeunes et des vieux. À la place de la croix, à mon cou, ils pendirent le corps de l'albatros. Il y eut un long temps de grand abattement, les gorges desséchées, les yeux vitreux aussi. Oh, tant d'abattement! Oh, tant d'épuisement! Oh, tous ces yeux vitreux! Vers l'ouest regardant, j'aperçus un objet étrange dans le ciel. Au début, c'était comme une petite tache, comme un brouillard ensuite. Puis, changeant, cela prit une certaine forme que je connaissais bien. Tache, brouillard et forme que je connaissais bien, qui s'approchait sans cesse, plongeant, virant de bord, comme pour échapper à un esprit des eaux. avec nos gorges sèches, avec nos lèvres noires, brûlées, on ne pouvait ni rire ni gémir. D'extrême sécheresse, nous étions tous muets. Je me mordis le bras pour y sucer le sang et criais « Voile, voile !» Avec leurs gorges sèches, avec leurs lèvres noires, brûlées, c'est bouche bée qu'ils m'entendaient crier « Rendons grâce !» Et de joie, grimaçant, tout à coup, ils aspirèrent l'air comme s'ils le buvaient. Alors moi je criais « Regardez, regardez !» Elle ne louvoie plus, mais vient nous secourir, sans vent et sans marée, bien droite sur sa quille. Mais l'océan à l'ouest était tout embrasé, le jour presque achevé. Sur l'océan à l'ouest, le grand soleil brillant était presque posé quand cette forme étrange, soudain, vint se placer juste entre nous. Et lui. Aussitôt le soleil fut strié de barreaux. Oh, toi, mère des cieux, envoie-nous donc ta grâce. Et sa face de feu immense nous scrutait à travers, semble-t-il, la grille d'un cachot. Las, pensais-je en mon cœur qui battait la chamade, comme elle approche vite. Ces toiles d'araignée, on dirait bien ses voiles scintillant au soleil. Est-ce donc à travers les eaux de ce bateau, en grille de cachot, que scrutait le soleil? N'y a-t-il qu'une femme pour unique équipage? Ne serait-elle pas figure de la mort? Elles sont deux peut-être, la mort et sa compagne. Ses lèvres étaient rouges, ses regards affranchis, ses boucles jaunes d'or. Et sa peau, aussi blanche que peut l'être la lèpre, c'était vie dans la mort, le cauchemar qui fige et glace le sang de l'homme. L'épave dépouillée nous passa bord à bord. Les deux lançaient des dés. « La partie est finie, j'ai gagné, j'ai gagné !» cria vie dans la mort, et puis siffle trois fois. Le cercle de feu plonge, les étoiles surgissent, d'un pas la nuit arrive. Et au loin sur la mer, bruissant peu, le vaisseau fantôme disparaît. Et nous, nous écoutions, regardions alentour. À la coupe du cœur, je sentais la peur boire mon âme à petits coups. Étoiles en veilleuse, et aussi nuit profonde, sous la lampe était blanche la face du barreur. La rosée goutte à goutte de nos voiles tombait avant que le croissant de lune monte à l'est, avec un solitaire dans sa pointe du bas. Alors, sous cette lune talonnée d'une étoile, chacun, l'un après l'autre, me montrant son visage affreusement marqué, sans plainte, sans soupir, me maudit du regard. 4 x 50 hommes tombèrent un à un dans un bruit lourd et sourd, masse lourde et sans vie. Mais moi, je n'entendais ni plainte, ni soupir. Leurs âmes s'envolèrent de leur corps, fuyant vers le bonheur ou la peine. Elle passait près de moi, sifflant comme les flèches tirées par l'arbalète. J'ai peur de toi, marin, de ta main décharnée, de toi si grand et maigre, si maigre et tant hâlé comme plage ridée. J'ai peur de toi, marin, et de ton œil brillant, de ta main décharnée, de cette main si brune. N'aie pas peur l'invité à la noce. Ce corps-ci, tu le vois, n'est pas tombé sans vie. Seul, seul absolument, seul sur la mer immense, immense et vide, vide. Et pas un saint, jamais, pour prendre en compassion mon âme à la torture. Tous ces hommes si beaux, voilà ce qu'ils étaient, tous étendus là, morts. Tandis que des milliers d'êtres visqueux vivaient. Et je vivais aussi. Je regardais alors cette mer pourrissante, puis détournais les yeux. Je tournais mon regard vers ce pont pourrissant, ces hommes couchés, morts. Je regardais le ciel et tentais de prier. Mais avant qu'une prière eût pu jaillir enfin, un murmure mauvais survint qui fit mon cœur sec comme la poussière. Je fermais les paupières et les retins fermés. Alors, mes yeux de battre comme le pouls parfois, car le ciel et la mer et le ciel étaient comme un fardeau sur mes yeux épuisés. Et ces morts à mes pieds. De leurs membres coulait comme une sueur froide, ni décomposition, ni puanteur pourtant, mais leur regard sur moi ne s'était pas éteint. Si la malédiction d'un orphelin perdu peut conduire en enfer même un esprit céleste, bien plus terrible encore, oh oui, celle qu'on lit dans le regard d'un mort. C'est elle que j'ai vue 7 jours, 7 nuits durant, mais sans mourir pourtant. La lune voyageuse montait haut dans le ciel sans rester nulle part. Elle montait, douce, suivie par une étoile ou deux. Ses rayons se jouaient de l'océan torride comme la gelée blanche qui s'étale au printemps. Mais là où s'étendait l'ombre immense du navire, cette eau ensorcelée ne cessait de brûler d'un rouge silencieux, d'un rouge terrifiant. Regardant au-delà de l'ombre du navire, je vis les serpents d'eau qui dessinaient des traces d'un blanc étincelant. Et quand ils se dressaient, la lumière enchantée tombait en flocons blancs. Dans l'ombre du navire, très richement paré de bleu, de vert brillant et de noir de velours, il nageait, ondulait, et chaque trace était éclair de feu et d'or. Heureux être vivant. Mais nulle langue, hélas, pour dire leur beauté. Une source d'amour jaillit là, de mon cœur, et sans m'en rendre compte, je les bénissais tous. Sûrement mon bon saint prenait pitié de moi, et sans m'en rendre compte, je les bénissais tous. À ce moment précis, je pus enfin prier, et l'albatros tomba de mon cou. Libéré, comme si c'était du plomb, il sombra dans la mer. Ô sommeil, ô douceur, rien qui soit plus aimé d'un bout du monde à l'autre. Marie, reine, sois louée, qui des cieux fit descendre son doux sommeil en moi. Et les seaux sur le pont restés vains si longtemps, dans mon rêve ils étaient remplis par la rosée. Au réveil, il pleuvait. Mes lèvres étaient moites, ma gorge toute fraîche, mes vêtements mouillés. En rêve, j'avais bu, mon corps buvait encore. Je bougeais, sans pouvoir sentir ni bras ni jambes. J'étais léger, léger. J'étais près de penser qu'en dormant, j'étais mort, devenu pur esprit. Et bientôt, j'entendis un vent qui rugissait. Il ne s'approchait pas, mais c'est par son bruit seul qu'il agitait les voiles toutes usées et flétries. Puis, l'air des hautes sphères s'anima vivement, projetant en tous sens des éclairs à foison, et les étoiles blêmes en tous sens, çà et là, se mirent à danser. Le vent qui rapprochait gronda aussi plus fort, et les voiles gémirent comme font les roseaux. La pluie tomba à verse d'un gros nuage noir que la lune touchait. L'épais nuage noir que la lune touchait se divisa, et comme une chute jaillie d'une roche élevée, La foudre tomba droit, fleuve dressé et large. Jamais le vent bruyant n'atteignait le navire, et pourtant le navire se remit bien en route. Sous la foudre et la lune, les morts alors gémirent. Gémissant, remuant, tous enfin se levèrent. Mais ils ne parlaient pas, ni ne bougeaient les yeux. Il est vrai, même en rêve, voir ces morts se lever, c'eût été bien étrange. Le timonier barrait, le navire avançait. Nulle brise pourtant ne se levait jamais. Les marins au cordage, selon leurs habitudes, ils soulevaient leurs membres tels des outils sans vie. Équipage de spectres. Le corps de mon neveu était à mon côté, genou contre genou. Ce corps et moi tirions un seul même cordage, mais il ne disait mot. « J'ai peur de toi, marin. » « Sois calme. » « Sois tranquille, l'invité à la noce. » Ce n'étaient pas leurs âmes parties dans la douleur qui revenaient au corps. C'était une légion d'esprits venue du ciel. À l'aube, les marins relâchèrent leurs bras, et tout autour du mât, ils formèrent un groupe. Des sons doux par leur bouche montèrent lentement en sortant de leur corps. Autour, de tous côtés, ces doux sons s'envolaient, fonçaient vers le soleil, revenaient lentement, tantôt tous mélangés, tantôt l'un après l'autre. Quand elles tombaient du ciel, quelquefois, j'entendais l'alouette chanter. Et quelquefois, c'était tous les petits oiseaux qui me semblaient remplir et la mer et le ciel de leur doux gazouillis. À de certains moments, c'était comme un concert de tous les instruments, ou une flûte seule, ou bien le chant d'un ange qui rend le ciel muet. Et puis tout s'arrêta, le plaisant bruit des voiles restant jusqu'à midi, tout pareil à celui du ruisseau caché sous les feuillages de juin, quand il chante la nuit un air doux et léger pour les bois endormis. Nous avons navigué en paix jusqu'à midi. Quoiqu'on ne vit jamais nulle brise souffler, le navire avançait, lentement, régulier, poussé par en dessous. Sous la quille, en effet, à 9 brasses de fond, depuis le froid pays de brouillard et de neige, l'esprit glissait. C'était donc bien lui qui faisait avancer le navire. Le bruissement des voiles à midi s'arrêta, et le navire alors de s'arrêter aussi. Le soleil sur le mât à la mer le fixait, mais à l'instant d'après, le navire a bougé, mouvement bref et gauche, avançant, reculant d'une demi-longueur, mouvement bref et gauche. Alors, tel un cheval qui rue et qu'on libère, le navire soudain fit un écart. Le sang me montant à la tête, je tombai évanoui. Dire combien de temps cette crise dura, je ne peux. Mais avant mon retour à la vie, j'entendis dans mon âme 2 voix tout près de moi. « Est-ce lui ? Est-ce l'homme ? » disait l'une des voix. « Par celui qui mourut sur la croix, est-ce donc celui qui, de son arc cruel, a fait tomber l'innocent albatros ? L'esprit, qui seul habite au pays du brouillard et de la neige, aimait l'oiseau qui aimait l'homme, et par l'homme fut tué. » Plus douce l'autre voix, douce comme un nectar, lui répliquait « Cet homme a bien fait pénitence, et le fera encore. » « Mais dis-moi, continue. » « Dis-moi, et dis encore ta si douce réponse, qu'est-ce qui fait marcher si vite ce navire ? L'océan, que fait-il ? » L'océan, sans nul souffle, est pareil à l'esclave, figé devant son maître. Dans l'absolu silence, son œil immense et clair est levé vers la lune, demandant son chemin. Qu'elle soit douce ou dure, c'est elle qui le guide. « Ah, mon frère, vois. » Vois descendre jusqu'à lui son regard bienveillant. Mais pourquoi ce navire avance-t-il si vite et sans vagues et sans vent ? l'air écarté devant, se referme derrière. Vole, mon frère, vole. Plus haut, plus haut, sinon nous serons en retard. Quand finira la transe du marin, le navire réduira son allure. Je sortis du sommeil et nous voguions toujours par un temps agréable. Il faisait nuit, alors, nuit calme et lune haute, les morts groupés debout. Ensemble sur le pont, ou mieux dit l'ossuaire, tous toujours me fixaient avec leurs yeux de pierre qui brillaient sous la lune. L'angoisse, le malheur du moment de leur mort n'avait pas disparu. Mes yeux, je ne pouvais les détacher des leurs, les lever pour prier. Le charme était rompu. De nouveau, je pouvais scruter l'océan vert. Même au plus loin pourtant, je ne vis rien de ce qu'on avait vu ailleurs. Comme celui qui marche sur un chemin désert, qui va droit devant lui avec crainte et terreur, car s'étant retourné, il a vu que le suit un terrible démon. Sans bruit, sans rien bouger, un vent bientôt souffla, sans laisser sur la mer aucune onde, aucune ombre. Il levait mes cheveux, il caressait ma joue, comme au printemps la brise sur les prés renaissants. Il se mêlait aussi à mes peurs, chose étrange, mais j'y voyais pourtant un air de bienvenue. À très grande vitesse, le navire filait, mais très léger pourtant, et doux était le souffle de la brise à moi seul destinée. Oh, le rêve de joie! Est-ce bien le fanal? Est-ce bien la colline? Est-ce l'église, enfin? Est-ce là mon pays? Nous passâmes le môle sans nul effort, et moi je priais en pleurant. « Oh Seigneur, je t'implore que je sois éveillé ou qu'à jamais je dorme !» Claire comme le verre était la rade et lisse toute son étendue. La lune sur la baie étendait sa lumière et son ombre avec elle. Le rocher brillait fort et tout autant l'église qui se dresse dessus. La lune y baignait de lumineux silence la girouette tranquille. Et la rade était blanche de lumière muette jusqu'à ce qu'en émerge une foule de formes. Moi, je voyais des ombres aux couleurs cramoisies. Elles se trouvaient là, toutes ces ombres rouges, pas très loin de la proue. Je regardais le pont. Oh, Seigneur! Oh, Seigneur! Qu'est-ce que je vis là? Les corps gisaient à terre, étendus et sans vie, et par la Sainte Croix, sur chacun se tenait un être de lumière, un ange, un séraphin. Un spectacle céleste, ce cœur de séraphin qui agitait la main. Tous merveilleusement lumineux ils étaient, dressés comme fanaux pour les gens de la terre. Ce cœur de séraphin qui agitait la main restait aussi sans voix, sans voix. Mais ce silence descendait dans mon cœur comme de la musique. Puis bientôt j'entendis le battement des rames et j'entendis aussi le salut du pilote. Tournant la tête alors, j'aperçus le canot. Le pilote et son aide se rapprochaient en hâte. Dieu du ciel, cette joie! Les morts ne pouvaient pas me l'enlever, c'est sûr! Je vis un troisième homme et j'entendis sa voix. L'ermite, homme de bien, qui chante à pleine voix les cantiques très pieux qu'il écrit dans les bois. Il absoudra mon âme, il lavera mon âme du sang de l'albatros. Oui, cet homme de bien demeure dans ce bois qui descend à la mer. Oh, très haut il élève sa belle et douce voix. Il aime bavarder avec ceux des marins rentrés d'un long voyage. Matin, midi et soir, il se met à genoux sur un coussin moelleux. C'est la mousse qui cache d'un vieux chêne de la souche, depuis longtemps pourri. L'esquif approchait donc. J'entendais qu'il parlait. Ma parole, c'est étrange. Où sont-elles ces belles et multiples lumières qui, encore à l'instant, faisaient comme un fanal? Par ma foi, c'est étrange. Parole de l'ermite. Ils n'ont pas répondu à notre franc salut. Les planches sont gauchies. Et regardez ces voiles, tout usées et flétries. Jamais rien vu de tel. Ou si ce n'est, peut-être, les squelettes foncés des feuilles qui se traînent le long de mon ruisseau, quand les buissons de lierre se courbent sous la neige, et que le hibou crie au loup, qui, en bas, croque le petit de la louve. « Seigneur, ça sent le diable !» répondait le pilote. « J'ai peur !»« Avance ! Avance !» dit vivement l'ermite. Et le canot alors s'approcha du navire. Mais moi je demeurais sans un mot, sans un geste. Le canot s'approcha jusqu'au flanc du navire, et aussitôt un bruit. Le bruit continua, grondant sous l'eau plus fort et plus épouvantable, atteignit le navire et déchira la rade. Le navire sombra comme une masse de plomb. Étourdi par ce bruit épouvantable, énorme, qui frappait durement et le ciel et la mer, mon corps flottait pareil au noyé de 7 jours. Mais vite, comme en rêve, je me retrouvais dans le canot du pilote. Dessus le tourbillon où sombrait le navire, le canot tournoyait. Enfin, tout devint calme. L'écho demeurait seul du bruit sur la colline. Moi, je bougeais les lèvres. Le pilote cria, tomba en convulsion, et là où il était, levant les yeux, l'ermite commença de prier. Je me saisis des rames, et l'aide du pilote, alors devenu fou, rit fort et très longtemps. En même temps, ses yeux allaient dans tous les sens. « Ah, ah oui !» disait-il, « c'est clair, je le vois bien, le diable s'est ramé !» Et maintenant, j'étais vraiment dans mon pays. J'étais sur la terre ferme. L'ermite descendit, lui aussi du canot, tenant debout à peine. « Saint homme, entends ma faute. Accorde le pardon. » Il se signa au front. « Parle vite, dit-il, je t'ordonne de dire quelle sorte d'homme es-tu. » Aussitôt tout mon corps fut comme écartelé avec douleur extrême. Je ne pus que parler, raconter mon histoire, et je fus libéré. Ce supplice, depuis, l'heure est imprévisible, se reproduit de même ainsi jusqu'à ce que l'épouvantable histoire soit toute racontée. Au-dedans, mon cœur brûle. Comme le fait la nuit, je vais d'un pays l'autre, étrange en vérité mon pouvoir de parole. Dès le premier regard, je reconnais celui qui doit m'entendre. À lui, je compte mon histoire. Quel grand tapage sort de cette porte ouverte. Les invités sont là. Au jardin la mariée, avec ses demoiselles, chante sous la tonnelle. Entends la cloche grêle qui sonne aussi les vêpres et m'invite à prier. Invité à la noce, cette âme a été seule sur une vaste mer. De telle solitude que Dieu même, oui, Dieu, semblait en être à peine plus doux. Plus doux pour moi que le banquet de noces et de marcher ensemble, ensemble vers l'église en bonne compagnie. Ensemble vers l'église et ensemble y prier, chacun se prosternant devant Dieu notre Père. Les vieux et les petits, et les tendres amis, joyeux garçons et filles. Adieu, adieu, à toi je le dis, invité. Prie bien qui aime bien, et l'homme, et les oiseaux, et tous les animaux. Prie mieux qui aime mieux, toutes choses du monde, et grandes et petites, car le Dieu qui nous aime les a toutes créées de rien et dans l'amour. Là-dessus le marin, le vieux à l'œil brillant, à la barbe blanchie par les ans, est parti. L'invité à la noce s'est alors détourné des portes du marié. Il allait comme celui qui a été sonné et qui perd la raison. Le lendemain matin, il se leva, homme, encore, mais plus triste et plus sage.